Phénomènes étranges et inexpliqués. Histoires insolites. Énigmes non résolues. Mythes et complots.
11h presque 20 minutes avec Christian Page qui est la vedette d'une conférence le 10 mars prochain au Centre Bell, n'est-ce pas?
Je voudrais bien.
Est-ce que j'ai bien mis ma feuille?
Mais ça sera plutôt au Centre Roussin.
Ah, OK, OK.
Qui se trouve à Montréal, donc à Pointe-aux-Trembles. Et le sujet de la conférence sera les enlèvements extraterrestres. Donc, un sujet palpitant, fascinant, très controversé. Donc, tous les gens qui veulent avoir de l'information là-dessus, c'est simplement consulter mon site, le www.christianpage.ca.
Si je fais le calcul comme il faut, le 10 mars, c'est pas samedi prochain, mais samedi c'est de l'autre semaine.
OK,
parfait.
Donc, dans deux semaines maintenant.
Le projet Silverbug.
Oui, écoute, je t'amène un peu d'histoire canadienne. Un côté sombre de l'histoire canadienne que peu de gens connaissent. En fait, on est en février 1955. L'armée de l'air américaine, évidemment, il y a cette guerre de Corée qui est présente.
Oui.
Il y a déjà un bras de fer qui se fait avec le Vietnam. Donc là, les Américains se disent, dans le cas où il y a des conflits dans ces régions du monde, c'est difficile de faire poser des avions parce qu'il faut construire un terrain d'atterrissage. Les hélicoptères, il faut déboiser. Alors, on imagine une espèce de véhicule en forme de disque qui pourrait atteindre des vitesses de Mach 3, se déplacer à une altitude de 20 000 pieds d'altitude. Donc, tu comprends, le super engin.
Alors, 20 000 mètres.
20 000 mètres, oui, c'est ça, 20 000 mètres d'altitude.
Donc. 20 000 pieds, ça, c'est faisable.
Ouais, 20 000 mètres, on parle de 60 000 pieds. Là, là, non.
On commence à être haut.
Non,
là.
On a un super bolide. Là, donc, c'est l'arme absolue. Et les Américains, donc le Pentagone, réfléchit là-dessus et ils vont concevoir un projet qu'ils vont appeler le projet Silverbug. En février 1955, ce projet Silverbug, insecte d'argent, est approuvé par le Pentagone. Et écoute, j'ai ici le petit document du Pentagone qui montre comment nos braves militaires avaient planché sur cette histoire-là. Le technical report. Fait qu'on décide finalement de passer d'aller de l'avant avec le projet. Alors, on cherche qui sera en mesure de construire le dit engin et on va se tourner vers la compagnie Avro Canada, peut-être ce nom-là t'a dit quelque chose, parce que ce sont les mêmes gens qui ont conçu le CF-105 Arrow, célèbre avion qui, sous le régime de Diefenbaker, dès qu'il a été construit, on l'a déconstruit. Bon, il y a eu des magouilles entre les Américains, le gouvernement canadien, on n'a pas voulu avoir un impact sur le marché de l'avionique.
Ça, c'était vraiment un chasseur là, de type F-18.
Oui, exact. C'était un chasseur de fine pointe à ce moment-là. Donc, on détruit le Arrow CF-105, mais cette compagnie qui avait fabriqué le Arrow, la compagnie Avro Canada, qui était en banlieue de Toronto, eux prétendaient être en mesure de pouvoir construire un engin comme celui-là.
Ça a l'air d'une soucoupe volante pas mal, cette affaire-là.
Ça a l'air d'une soucoupe volante. Et en fait, c'est le modèle type soucoupe volante. Finalement, on va octroyer les budgets à la compagnie Avro Canada pour qu'ils développent cet engin qui, comme tu l'as mentionné, a tous les aspects d'une soucoupe volante. Alors, on y travaille, on espère mettre au point cet engin qui sera qui sera le nec plus ultra des aéronefs. Malheureusement, ça ne se passe pas aussi bien qu'on voudrait. Parce que là, tu as le plan technique du fameux véhicule, comme on devait le voir. Et voici ce que ça a donné au sortir.
Mais ça, c'est un vrai... OK, c'est un livre qui a été dédié à ça. Là.
Ouais, donc on
Canada's fait... Flying Saucer.
Voilà. Donc, on construit cette machine-là qui est en fait une grosse turbine autour duquel on a développé deux espèces de cockpits dans lesquels les pilotes vont se trouver. L'engin que tu vois là va... Écoute, ça va coûter des millions développer ça. L'appareil en question ne volera jamais à plus de 30 cm au-dessus du tarmac.
Ça va pas bien.
Il a des problèmes de stabilité. Il est incapable, par exemple, de franchir un fossé de 1 mètre de profondeur. Donc, les problèmes sont majeurs. Et là, ben, peu à peu, l'armée de l'air américaine dit « C'est beau, votre projet de soucoupe volante, là, mais là, pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on avait sur papier. On parlait d'un engin capable de se déplacer à 20 000 mètres d'altitude, d'atteindre Mach 3. Votre appareil atteint à peine 40 km/h, puis il y a de la misère à voler à 30 cm au-dessus du tarmac. » La compagnie Arrow va quand même prétendre, va dire à l'armée de l'air, là, tu viens de passer d'ailleurs une photo à quoi ça devait ressembler. Là, c'était le super bolide. Je te vois feuilleter le bouquin en question. Et ça devait être un engin extraordinaire. On imaginait quasiment une armada de soucoupes volantes se posant à gauche et à droite. Et finalement, la compagnie Arrow sera incapable de régler ses problèmes de stabilité. En fait, on n'arrivait pas à compenser pour les mouvements d'oscillation du fameux disque volant et le projet a été abandonné. Ça faisait un vacarme épouvantable et on ne voyait pas comment on pourrait éventuellement répondre ou en tout cas réagir aux problèmes de stabilisation du véhicule. Le projet a été abandonné en 1961 après avoir investi des millions de dollars là-dedans. Et les deux...
C'était pas énormément gros là, comme véhicule. Je vois des hommes qui sont au-dessus. Là.
Voilà. C'était un appareil qui avait à peu près la grosseur. Là, si on faisait, là, évidemment, on parle d'un engin circulaire. Donc, je te dirais qu'en diamètre, ça pouvait représenter à peu près la grosseur d'un petit appareil comme un Cessna ou quelque chose comme ça. Donc, un engin plutôt accessible pour des régions difficiles d'accès comme les forêts. Il aurait suffi à ce moment-là simplement de trouver une clairière et l'appareil aurait pu se poser puisque c'est un appareil avec un décollage vertical. Finalement, le projet a été abandonné, mais ça continue de faire fantasmer les amateurs de soucoupes volantes hein, parce que les gens se disent « Ouais, mais si l'armée ont décidé de construire un engin en forme de disque, est-ce qu'il n'y avait pas quelque part une inspiration à travers les témoignages de gens qui disaient voir des soucoupes volantes? Est-ce que ça l'a inspiré l'armée américaine? Quand on regarde la fiche technique que tu as entre les mains, il semble qu'il n'y a absolument aucun intérêt entre l'idée de développer un engin en forme de disque et les observations de soi-disant soucoupes volantes. Les ingénieurs disaient qu'un appareil en forme de disque était plus facile à manœuvrer dans des régions excessivement boisées. Il aurait davantage, on pouvait changer la position du cockpit, donc faire basculer le véhicule sur lui-même, donc faire basculer la position du cockpit et pouvoir atterrir dans à peu près n'importe quelle région boisée. C'était donc un des concepts d'ordre aéronautique qui a inspiré les ingénieurs et non pas les témoignages.
Dans l'histoire militaire, ça a été combien de fois on voulait aussi à l'époque prendre des appareils puis être capable de les faire atterrir de façon verticale.
Voilà, c'était un gros enjeu. Et cet enjeu-là
c'était ça qu'il devait faire.
Et l'enjeu était là parce que c'est vrai que des régions boisées, que ce soit la Corée, que ce soit le Vietnam, on se rappelle, durant la guerre du Vietnam, il fallait envoyer des troupes au sol. Il fallait que ces gens-là dégarnissent toute une région boisée pour permettre aux hélicoptères de se poser. Et même là, se poser en milieu de forêt, il suffisait, par exemple, de vent contraire et l'hélicoptère était légèrement déporté. Il y a toujours le risque que les pales accrochent la cime des arbres, tout ça. Donc, c'était toujours problématique, alors qu'un appareil comme celui-là aurait pu se poser dans n'importe quelle clairière de façon assez simple. Donc, c'est un projet, c'est une curiosité dans le domaine de l'aéronautique, cette histoire du projet Insecte d'argent qui n'a jamais été développé concrètement.
Le phénomène de Poltergeist.
Oui, un autre petit amuse-gueule avant de passer à notre grosse histoire de la semaine. Donc, le film Poltergeist que tu as probablement vu, que ce soit la version de 1982 ou de 2015. D'ailleurs, la version de 1982 était de loin supérieure à la reprise de 2015. Je pense que c'est un film qui a marqué une génération de gens, ce film Poltergeist, parce que les trucages, les effets spéciaux étaient spectaculaires. Il y avait également, le jeu des comédiens était remarquable. Il y avait aussi cette idée qu'on exploitait, puis qui est devenue un peu dans le langage populaire. Hein, cette idée, à un moment donné, la médium qui dit « Oh, allez vers la lumière! » Puis il y a comme dans l'au-delà, il y a cette lumière qui, tu sais... Faut quand même le dire, c'est emprunté au cinéma. C'est pas une réalité que soutiennent les parapsychologues ou les chercheurs dans ce domaine-là. Les chasseurs de fantômes récupèrent ce discours-là parce qu'ils l'ont vu dans Poltergeist, mais ça repose sur rien. Mais ça a marqué toute une collectivité. Donc, ce film, Poltergeist de 1982, contrairement à beaucoup de films, c'est assez amusant parce qu'il y avait, et depuis le début des années 80, il y a cet intérêt aux États-Unis dans le cinéma américain, de développer des films basés sur des faits réels. Donc, le film commence, on nous dit, voici le film que vous allez voir est basé sur une histoire vraie.
Inspiré de faits vécus.
D'ailleurs, actuellement, il y a une histoire, un film qu'on peut voir à l'affiche, qui est sur la maison Winchester, de Sarah Winchester, que j'irai voir dans les prochains jours, et je t'en reparlerai éventuellement, qui est basé sur une histoire vraie. Donc, on fait souvent cette idée-là de présenter un film comme basé sur une histoire vraie. Curieusement, Poltergeist, qui est basé sur une histoire vraie, n'est pas présenté au cinéma cinéma comme étant basé sur une histoire vraie. Donc, on ne fait pas cette filiation-là. Et pourtant, dans la réalité, on est le 3 février 1958. On se trouve à Seaford. Ça se trouve sur Long Island, dans une petite maison unifamiliale qui est occupée par un couple et leurs deux enfants, la famille Herman. Et là, le 3 février 1958, en plein milieu de l'après-midi, il est à peu près 15h30, ça se met à popper partout dans la maison. Pop, 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 pop. Et là, évidemment, Mme Herman qui est là, il y a avec elle ses deux enfants, deux jeunes, deux adolescents. Et là, on se demande qu'est-ce que c'est que ces pop. On fait le tour de la maison pour s'apercevoir qu'on a plein de bouteilles. Ça va des bouteilles de shampoing dans la salle de bain à des bouteilles de produits cosmétiques qui sont dans la chambre des parents. Les bouchons ont sauté. Et les bouchons n'ont pas simplement sauté. Dans certains cas, ils ont été tout à fait dévissés. Parce qu'on parle beaucoup de bouchons qui se dévissaient. Beaucoup des bouchons ont été dévissés et les bouteilles se sont renversées et leur contenu se répand. Alors là, Mme Herman se pose la question de quoi il peut bien s'agir. Elle appelle son mari au travail et lui dit « Attends, je verrai mon amour quand je rentrerai à la maison. » Il arrive le soir, fait le tour de la maison, ne trouve aucune explication. Deux jours plus tard, le même phénomène se reproduit en plein milieu d'après-midi. Madame Herman est là, ses deux adolescents sont à la maison, on regarde la télévision, ça se met à popper partout dans la maison. Donc, encore une fois, retour dans chacune des pièces pour découvrir que plein de bouteilles, les bouchons ont sauté. Et ce qui attire Madame Herman, parce qu'on est quand même une famille qui est très religieuse, Madame Herman constate que la bouteille d'eau bénite a été ouverte et son contenu déversé.
Ah.
Alors, évidemment, il y a une association un peu maléfique, là. Et va finalement arriver cette
journée. Le diable est dans la cabane.
Le diable est dans la cabane, comme aurait dit M. Saint-Onge à Actonville. Et voilà que le dimanche 9 février, en matinée, évidemment, M. Herman, James Herman, n'est pas tout à fait convaincu. Il dit à sa femme, ben, qui sait, peut-être que les enfants ont fait le truc, ont dévissé des bouteilles. On ne sait pas trop. Et finalement, le matin du 9 février, M. Herman est lui-même témoin de cette manifestation-là. Il est dans la salle de bain lorsqu'il voit les bouchons se mettre à popper. Alors, pour te faire une histoire courte de cette affaire-là, on va appeler la police. Les policiers de Seaford vont mettre un enquêteur sur cette affaire-là qui va passer presque toutes ses journées dans la maison des Herman. Il va être témoin lui-même de certaines de ces manifestations. Au total, on va enregistrer plus de 67 manifestations distinctes.
Quand même.
La presse va s'emparer de l'affaire. On va surnommer le fantôme Popper,
ben oui,
parce
popper.
Que les bouteilles pop, fait que ça, le fantôme doit être Popper. Et finalement, le 10 mars 1958, donc à peine un mois après le début des manifestations, tout va s'arrêter. Et Popper va disparaître. On ne trouvera pas d'explication. Certains vont accuser les adolescents d'avoir voulu jouer un truc, une blague aux parents. Malheureusement, les années passant, les adolescents devenus des adultes ont toujours nié à y être pour quelque chose. Donc, cette affaire, le fantôme, le poltergeist de la famille Herman, reste pour l'instant inexpliqué. Voilà.
Il n'est pas disparu, en tout cas. Vous avez entendu Popper sur les ondes de retour.
Absolument.
La tournée de nos idoles, hein, c'est Popper qui est là. L'autre histoire, tu nous parles d'une histoire étrange.
Et à unique dans les annales judiciaires aux États-Unis. Alors, faut se plonger d'abord dans cet événement qui est d'abord un fait divers. Le 21 février 1977, des pompiers sont appelés, il est à peu près 20h30, ils sont appelés dans une maison à appartement où il y a un feu qui s'est déclaré. Donc, les pompiers arrivent sur place, beaucoup de fumée, on maîtrise rapidement les flammes et c'est une scène de crime. On trouve dans une pièce un matelas sur lequel on a mis le feu et sous le matelas, en tassant le matelas, on trouve une femme, 48 ans, une femme qui s'appelle Teresita Baza, qui est la locatrice de cet appartement. Et elle a un poignard planté dans l'abdomen. Elle est à moitié dévêtue, ses sous-vêtements baissés jusqu'à ses genoux. Donc, on imagine la maison et l'appartement est sans dessus-dessous. Alors, on se dit, ça doit être un vol qui a mal tourné et a suivi d'une agression sexuelle.
Ouais.
À l'autopsie, on va découvrir que, et ça c'était quand même surprenant, Teresita Baza, qui est originaire des Philippines, est encore vierge. On parle ici d'une femme de 48 ans. Donc, l'agression sexuelle a visiblement été une façon pour l'agresseur d'essayer de détourner l'idée vers autre chose. Alors, la police est chargée de l'enquête. En fait, c'est les policiers d'Evanston, qui est juste une banlieue de Chicago, qui sont chargés de l'enquête. Alors, voici notre premier volet. Mettons ça de côté maintenant. Alors que les policiers enquêtent sur l'affaire Teresita Baza, à l'hôpital Edgewater, où travaillait Teresita Baza, elle travaillait comme inhalothérapeute, une autre infirmière, elle aussi originaire des Philippines, qui connaissait Teresita, mais n'était pas une amie. C'est un grand hôpital, les gens se côtoient, elle la connaissait de vue. Et voilà qu'elle s'endort à un moment donné dans le quartier des infirmières et lorsqu'elle se réveille, elle voit au pied de son lit le fantôme de Teresita. Elle lui fait des signes, elle l'appelle. L'affaire reste là. Dans les jours qui suivent, elle a un changement de comportement. D'autres infirmières qui connaissaient bien Teresita Bassa lui disent « C'est drôle, on dirait que tu développes les mimiques de Teresita Bassa. » Alors cette dame continue donc de présenter ses comportements un peu étranges. Elle s'appelle Remedia Choa et voilà que Remedia Choa, chez elle, entre dans des états de transe et là, elle se met à parler. Et le temps file, je vais essayer de t'amener ça vers la fin parce que le dénouement est extraordinaire. Elle raconte, elle s'endort et elle parle. Alors son mari, qui est dentiste, décide de la faire parler davantage. Il lui dit « Mais qui es-tu ?» Et elle lui dit « Je suis Teresita Bassa. Appelez les policiers. Mon assassin, c'est Alan Chavary, un employé de l'hôpital. » Évidemment, sans preuve à l'appui, M. Choix ne peut pas appeler la police en disant « Ma femme dit elle est dans des espèces de
l'interner.
On va l'interner. » Alors, à un moment donné, sa femme s'endort à nouveau, entre à nouveau dans cet état de transe, demande à son mari « Est-ce que tu as appelé la police ?» Il dit « Non, sans preuve, que puis-je faire ?» Et là, sa femme, qui incarne Teresita Bassa, lui dit « Alan Chavary a volé ma bague et mes bijoux. Il les a donnés à sa concubine. Mes cousins, mes parents pourraient identifier mes bijoux. » Alors, sur la foi de cette information, crois-le ou non, M. Choa va contacter la police d'Evanston. Ce type, Alan Chavary, n'est pas sur la liste des suspects. Mais les policiers vont décider de l'interroger. Et peu à peu, l'étau se resserre sur Alan Chavary. On va interroger sa conjointe. Elle reconnaît qu'à la fin du mois de février 1977, Alan Chavary lui a bel et bien donné des bijoux. Ces bijoux sont montrés à des parents de Teresita Bassa qui reconnaissent les bijoux comme étant ceux. Et finalement, il est accusé officiellement du meurtre de Teresita Bassa. Mais ce qui est assez extraordinaire, on va faire témoigner les choix, mais pour la défense. Parce que ce que veut faire l'avocat de la défense, c'est de montrer que les policiers se sont intéressés à son client, mais sur une histoire de fantôme invraisemblable. Tant et si bien que ça fonctionne en partie. Dans un premier procès, le jury reste divisé. Est-ce que oui ou non, les policiers auraient dû interroger Alan Chavary sur la foi de déclaration d'une femme qui se disait en état de transe? Dans un premier procès, donc, il y a une mésentente entre le jury. Il va y avoir un second procès. Et durant ce procès, Alan Chavary va plaider coupable à des accusations de meurtre au second degré. Et toute cette déclaration-là, l'enquête policière repose sur des déclarations d'outre-tombe tenues par Teresita Bassa, si on y croit, à travers la bouche de cette madame Remedia Choa. C'est une affaire qui reste pour l'instant inexpliquée. J'ai parlé avec des policiers qui ont été... Le policier qui est impliqué dans cette affaire-là, dénommé Joseph Stichula, et qui, lui, confirme l'ensemble de ces faits-là. Et pour lui, l'affaire reste tout à fait inexplicable.
Curieuse affaire. Et merci beaucoup.
Ça me fait plaisir, Mathieu.